Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Pour les deux week-ends à venir, les déplacements seront interdits dans les communes de l'aire urbaine littorale. Cette mesure prendra effet dans la zone définie le vendredi soir à 18h et jusqu'au lundi matin à 6h.
Fini les longues balades sur la promenade des Anglais, en tout cas pour les deux prochains week-ends. Un confinement partiel est décrété sur le littoral des Alpes-Maritimes le samedi et le dimanche. Autre mesure, la fermeture des commerces de plus de 5000 mètres carrés. Détails de ces annonces et réactions dès le début de ce journal. Sanofi passe la seconde. Le laboratoire français a débuté un nouvel essai clinique de phase 2 de son vaccin. Objectif, mise sur le marché avant la fin de l'année. Le début de la campagne des tests salivaires pour les élèves de la zone A. Rentrée des classes à Bordeaux, Grenoble ou encore Lyon, où il n'y a désormais plus de viande à la cantine. Passe d'armes entre le maire écolo et certains membres du gouvernement. Dans ce journal également, le Royaume-Uni se prépare à un déconfinement progressif et prudent. 2 mois de prison avec sursis requis contre l'infirmière soupçonnée d'avoir lancé des projectiles contre des policiers. Les images de son interpellation avaient fait le tour des réseaux sociaux. Et puis le choc pour toute une génération qui a dansé sur leur musique. Les Daft Punk se séparent après 28 ans de carrière. La météo, elle sera beaucoup plus lumineuse demain avec un soleil généreux sur une grande partie du pays. Mais il y aura toutefois quelques averses sur les Cévennes, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en très légère baisse, moins 0,11% à 5767 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes avec cette polémique qui monte. Les salaires seront-ils toujours payés en priorité dans les entreprises en dépôt de bilan? Un projet de loi jette le doute. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Christophe Bass, président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une première dans l'Hexagone depuis le début de la pandémie. Un confinement partiel a donc été décrété le week-end dans les Alpes-Maritimes, département où les hôpitaux sont arrivés à saturation, conséquence d'une explosion de cas avec un taux d'incidence 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Alors concrètement, tous les habitants de la bande littorale devront rester chez eux au moins pour les 2 prochains week-ends. C'est la principale mesure qui a été annoncée aujourd'hui. Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant à Nice.
Oui, et effectivement, ce confinement décidé pour les 2 prochains week-ends sera reconduit si nécessaire. Il prend effet à partir de ce vendredi 18h jusqu'à lundi 6h du matin. De Menton à Théoule, en passant par Vence ou Grasse, la population sera autorisée à sortir pour se rendre chez un médecin, faire des courses alimentaires, promener les animaux de compagnie ou faire du sport, mais dans la limite d'1 heure et dans un rayon de 5 km. Vous ne pourrez pas en revanche aller chez le coiffeur ou acheter des chaussures et vêtements en boutique. Dès demain, les galeries marchandes de plus de 5000 m² seront également fermées, à l'exception des magasins alimentaires et des pharmacies. Et dans les commerces ouverts, la jauge passe de 10 à 15 m² par client. Les contrôles vont aussi être renforcés aux frontières, dans les gares et aéroports, et des tests PCR aléatoires seront organisés. Et pour les Français qui désirent se rendre sur la côte d'Azur, il n'y a pas d'interdiction formelle à partir du moment où le couvre-feu et le confinement du week-end sont respectés. Mais le préfet des Alpes-Maritimes invite les vacanciers à décaler leur séjour en attendant des jours meilleurs.
Frédéric, comment réagissent les habitants et les commerçants ?
On a attendu tout le week-end la fumée blanche, donc la population s'est préparée à ces nouvelles restrictions. J'ai rencontré cet après-midi plusieurs personnes entre Nice et Cannes. Il n'y a pas d'opposition directe, mais vous allez l'entendre, j'ai surtout ressenti une grande lassitude.
Les chiffres sont mauvais, donc il faut agir.
C'est difficile pour les personnes qui ont une activité toute la semaine et qui, le week-end, vont se retrouver enfermées. C'est long.
Moi, je comptais sortir avec mes amis, faire des soirées et tout ça. Et du coup, avec le confinement, c'est compliqué de profiter tout ça. Mais bon, si c'est pour le bien de la population, écoutez, il faut le faire. Hein, on n'a pas le choix.
C'est pas suffisant. Il faudrait confiner totalement. Comme ça, au moins, on est débarrassé. Ça sert à rien de faire les choses à moitié.
Et il y a aussi parfois, vous l'entendez, des interrogations sur la méthode. Michel vend des robes et costumes de mariée sur un des grands boulevards de Cannes. Samedi, son rideau restera baissé, alors qu'habituellement, c'est une très bonne journée.
Aujourd'hui, malgré les restrictions, malgré toutes les interdictions, on reste encore sur un virus hyper virulent et hyper présent. Donc, est-ce que la méthode de restriction est la bonne méthode pour enrayer le virus? Il n'y a plus de mariage, plus de cérémonie, plus de restaurant, plus de boîte de nuit. Et pourquoi on est toujours aussi malade?
Voilà, une méthode également contestée par certains élus. Tous, comme à Nice, n'applaudissent pas ces nouvelles restrictions, mais tous sont d'accord pour dire qu'il faut passer à la vitesse supérieure En termes de vaccination, d'ailleurs, le préfet a annoncé la livraison aujourd'hui de 4500 doses de vaccins supplémentaires.
Merci Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. À 600 km de là, en Moselle, les élus demandaient eux aussi un reconfinement territorialisé. Ils ne l'ont pas obtenu et pourraient en payer le prix fort dans les jours qui viennent. L'Allemagne envisage de classer le département en zone à haut risque avec, pour éventuelles conséquences, une fermeture partielle de la frontière, ce qui compliquerait fortement le passage des milliers de travailleurs frontaliers mosellans. Du côté des vaccins, ça bouge chez Sanofi, qui, vous le savez, a connu quelques déboires dans la mise au point de son sérum. Eh bien, le laboratoire français s'est repris et annonce le début d'un nouvel essai clinique de phase 2, une étape indispensable et cruciale, Emmanuel Duteil.
Oui, Sanofi doit prouver que son vaccin est efficace. Après son premier échec, il a tout simplement revu sa copie. Il y avait un problème de concentration du vaccin qui le rendait assez peu protecteur sur les plus âgés. Là, en interne, on se dit convaincu que les résultats vont être excellents. Le résultat de cette étude est attendu justement au deuxième trimestre. Chez Sanofi, on parle même du mois de mai. Et si les tests sont concluants, il faudra faire ce que l'on appelle maintenant des tests de phase 3. Et là, ça pourrait se compliquer parce que ça peut être assez dur à faire. Mais tout le monde se veut confiant et espère rapidement un vaccin, comme Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'Industrie. C'était récemment sur Europe 1.
Septembre, octobre, pas décembre.
Alors chez Sanofi, on préfère quand même toujours dire attention, d'ici à la fin de l'année. En tout cas, en attendant, le groupe va mettre à disposition son usine de Marcy-l'Étoile près de Lyon pour produire cette fois le vaccin de Johnson & Johnson. Les premières doses sortiront à partir du troisième trimestre. Il faut en effet adapter l'usine, c'est pas si simple que ça. Sanofi espère reproduire 12 millions de doses par mois. Des doses qui viendront s'ajouter à celles de Pfizer qui seront produites cette fois à compter de cet été dans l'usine allemande de Sanofi.
Merci Emmanuel Duteil. On vous retrouve dans quelques petites minutes pour l'interview Echo. Notez qu'il sera possible à partir de jeudi de se faire vacciner dans son entreprise. Les médecins du travail pourront commencer à injecter le vaccin AstraZeneca. Cela concernera dans un premier temps les salariés de 50 à 64 ans présentant des comorbidités. C'était jour de rentrée dans les écoles de la zone A. Cela concerne notamment les académies de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon ou encore Grenoble. Avec une nouveauté, la mise en place de tests salivaires pour enrayer l'épidémie dans les écoles. Tests sur les enfants et sur la base du volontariat, Anne Le Gall.
Oui, concrètement, il faudra un accord écrit des parents et ensuite les élèves devront tout simplement cracher au moins 1 millilitre de salive dans un flacon en plastique. Cet échantillon sera ensuite récupéré par un laboratoire du secteur. Il sera analysé par méthode PCR, la même que pour les tests nasopharyngés, et le résultat sera rendu en 24 heures. Les parents et l'école en seront avertis très vite pour organiser l'isolement à la maison, voire éventuellement la fermeture des classes. Et si le test est positif, un criblage sera aussi effectué pour rechercher le variant anglais ou sud-africain par exemple. Ces tests salivaires ont démarré dès aujourd'hui à Saint-Étienne notamment, mais le dispositif va se déployer progressivement dans les écoles primaires dans lesquelles on suspecte une forte circulation du virus. Tout ceci se fait sur la base du volontariat. Ces dépistages sont pour l'instant réservés aux élèves les plus jeunes, en maternelle et en élémentaire, et l'objectif est de réaliser 50 000 à 80 000 tests salivaires par semaine dans les écoles avant éventuellement d'élargir le dispositif au collège et au lycée.
Merci Anne Le Gall. Et à Lyon, autre nouveauté pour les écoliers, plus de viande dans les cantines scolaires, mais un menu unique végétarien. Décision de la mairie écologiste qui défend un choix lié aux contraintes sanitaires. Indignation d'une partie de l'opposition locale et de certains membres du gouvernement qui dénoncent la posture idéologique, moraliste et élitiste du maire Grégory Doucet. Un maire qui a des arguments à faire valoir, Claudia Bertram.
Oui, le premier, c'est que c'est une façon de s'adapter au nouveau protocole sanitaire dans les écoles, car ça permet de faire manger tous les élèves plus rapidement. Deuxième argument avancé par la municipalité lyonnaise, c'est qu'elle applique exactement la même mesure que celle instaurée en mai au sortir du premier confinement. C'était alors un certain Gérard Collomb, ancien membre du gouvernement, qui était à la tête de la ville. Pour les Verts, il s'agit donc d'une fausse polémique et Sandra Regol, la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, y voit une manœuvre politicienne.
Tout ceci est une vaste plaisanterie, pour le dire très poliment, mais ce qui se cache derrière est très inquiétant. Ce gouvernement semble déjà être en proie à une obsession qui est celle de la présidentielle et donc chercher à taper les écologistes. Je trouve ça déplorable.
Et certains au sein du gouvernement ne partagent pas vraiment les critiques de leurs collègues. Ce matin, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a joué, lui, l'apaisement.
Je fais des menus végétariens à mes propres enfants. Hier soir, c'était pas tricot épinard, pour ne pas vous cacher les choses. Donc, je ne suis absolument pas choqué et certainement pas scandalisé qu'on puisse proposer des repas sans viande ou sans poisson à l'école. La question, c'est quelle est la motivation sous-jacente. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas pour moi lieu à polémiquer.
De son côté, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, regrette ce qu'elle considère être un débat préhistorique. La polémique n'est donc pas au goût de tous les ministres.
Claudia Bertram, du service politique d'Europe 1. C'est le pays le plus endeuillé d'Europe, 120 000 morts, mais le Royaume-Uni entrevoit enfin un peu de lumière au bout du tunnel Covid. Le Premier ministre britannique a présenté tout à l'heure son plan de déconfinement. Il sera progressif avec quatre moments clés, quatre dates données à titre indicatif par Boris Johnson, car le Premier ministre veut rester prudent. Anaïs Cordoba, vous êtes à Londres pour Europe 1.
Oui, car le but de Boris Johnson est que chaque levée de restriction soit irréversible. Le retour à la vie normale va donc se faire en quatre étapes, chacune espacée de cinq semaines. D'abord, c'est la réouverture des écoles le 8 mars et l'autorisation pour 6 personnes maximum de se réunir en extérieur. Deuxième étape, le 12 avril, avec la réouverture des commerces non essentiels et des terrasses des restaurants et des bars. Troisième étape, le 17 mai, ouverture complète des restaurants ainsi que des salles de concert, théâtre, cinéma et hôtel. Enfin, quatrième et dernière phase, le 21 juin, les mariages et événements de grande ampleur sont de nouveau autorisés. Boris Johnson est confiant, grâce à la vaccination, ce confinement devrait être le dernier.
Notre programme de vaccination a complètement changé la donne en notre faveur. Certains estiment que nous pourrions aller plus vite, et je les comprends. Mais la fin est proche. Une année gâchée va laisser place à un printemps et un été qui seront très différents et incomparablement meilleurs que notre situation actuelle.
17,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin au Royaume-Uni et le gouvernement a promis d'offrir une première injection à chaque adulte d'ici fin juillet.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. Aux États-Unis, Joe Biden va ordonner la mise en berne des drapeaux pour marquer un triste événement, le passage imminent du seuil des 500 000 décès dus au Covid.
Europe 1, le 22-22-30.
Les images de son arrestation musclée avaient fait le tour des réseaux sociaux en juin dernier. L'infirmière interpellée lors d'une manifestation de soignants pour avoir jeté des projectiles contre les policiers était jugée aujourd'hui. 2 mois de prison avec sursis ont été requis. Et cet après-midi, Farida, c'est son nom, a profité de l'audience pour en faire une tribune et exprimer le mal-être des soignants, Marion Dubreuil.
Oui, à la barre, Farida témoigne de sa frustration, sa colère, ce 16 juin 2020, en pleine crise du Covid. « Je travaille en gériatrie et on a perdu. » Elle se reprend. « J'ai perdu la moitié de mes patients, 20 personnes au total », souligne la présidente. Le jet d'un pavé en direction des policiers, un geste symbolique contre l'État, explique-t-elle, sans intention de faire mal, mes mains ne blessent pas. Elle soigne. L'infirmière de 51 ans admet avoir adressé des doigts d'honneur aux forces de l'ordre, mais elle ne reconnaît pas les insultes que les policiers lui prêtent. D'ailleurs, la procureure a demandé sa relaxe pour ces injures et pour la rébellion alléguée lors de son interpellation, une scène que le tribunal a décomposée à travers 5 vidéos. Il y a des manières de dénoncer les conditions de travail que vous déplorez et qui sont déplorables, la reprend la juge. Mais ce sont des hommes et des femmes face à vous. Est-ce que vous pouvez imaginer les conditions de travail des policiers ? Ce sont des fonctionnaires comme moi, reconnaît l'infirmière, qui regrette son geste et s'adresse directement au commissaire qui a déposé plainte contre elle. Je ne voulais pas vous blesser. Elle ajoute avec amertume, nous sommes en train de démonter le service public. La seule violence que je connais, c'est celle de l'hôpital.
Marion Dubreuil qui a suivi ce procès au tribunal correctionnel de Paris. Le jugement sera rendu le 3 mai. Notez que la ministre du Travail sera demain matin l'invitée de la matinale d'Europe 1. Elisabeth Borne répondra à partir de 8h15 aux questions de Mathieu Béliard. Intrusion ce matin dans la préfecture d'Ajaccio. Une vingtaine de personnes sont entrées de force dans le bâtiment pour demander le transfert sur l'île de 2 détenus, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac. Ils purgent actuellement leur peine en région parisienne. Les bureaux de la préfecture ont été saccagés avant que les manifestants ne soient expulsés par les forces de l'ordre. Des milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui en Algérie pour le 2e anniversaire du Irak, le soulèvement populaire qui avait conduit à la chute du président Bouteflika. Ça faisait 28 ans qu'ils nous faisaient danser avec leur musique robotique. Le groupe Daft Punk a annoncé aujourd'hui sa séparation et c'est un choc tant le duo casqué a marqué toute une génération. On leur doit de nombreux tubes qui ont fait briller la musique électronique française à travers le monde. La fameuse French Touch dont les Daft Punk étaient le porte-étendard. Angèle Châtelier, est-ce que cette séparation est vraiment une surprise ?
Eh bien oui et non. Non déjà, puisque les Daft Punk formés en 1993 n'ont pas sorti d'album depuis 8 ans. C'était Random Access Memories avec leur célèbre Get Lucky, un album vendu à presque 4 millions d'exemplaires dans le monde, récompensé de 5 Grammy Awards. Alors 8 ans, oui, c'est long, on pourrait croire que leur séparation était attendue, mais en réalité, en 28 ans d'existence, les Daft Punk n'ont sorti que 4 albums. Le premier, c'était Homework en 1997, avec l'un de leurs premiers succès, Around the World. Discovery, Human After All, mais il y a eu entre 4 et 8 ans entre chaque album. On aurait donc pu croire qu'un nouveau était dans les tiroirs, d'autant qu'il y avait des rumeurs sur leur retour récemment. Un nouvel album en mai, une bande originale de film et même une prestation au Super Bowl. Mais dans une vidéo de 8 minutes publiée aujourd'hui sur leur page YouTube, difficile d'y croire. Au milieu, deux chiffres s'affichent, 1993-2021, sur une musique d'ambiance et des images de leur film Electroma. Et ce qui ne laisse pas planer le doute, c'est le nom de cette vidéo, Épilogue, qui n'est autre que la fin d'un discours.
Angèle Châtelier. Après la French Touch en deuil, le French Flair contaminé avec ce qui ressemble de plus en plus à une hécatombe pour le 15 de France. 5 nouveaux joueurs ont été testés positifs au Covid, dont le capitaine Charles Olivon. Cela porte à 10 le nombre de bleus touchés par le virus et qui manqueront le match face à l'Écosse dimanche. 5 réservistes supplémentaires ont donc été appelés en renfort. Et puis juste avant la météo, j'aimerais vous faire écouter ceci. Voilà ce que l'on entend à la surface de Mars, un enregistrement effectué par le micro du rover Perseverance qui s'est posé sur la planète rouge jeudi soir. Je vous invite à aller sur le site europe1.fr pour découvrir les tout premiers clichés pris par le robot ainsi que la vidéo de son atterrissage. C'est impressionnant. Allez, on termine avec la météo terrienne, Anissa Haddadi, avec au programme demain le retour du soleil.
Oui, particulièrement à l'est demain, Julien, de l'Alsace jusqu'à la Provence, en passant par le Lyonnais, le soleil s'impose toute la journée demain. Alors, en début de journée, du nord jusqu'à l'Occitanie, en passant par la Normandie, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, sur cette façade ouest du pays, le ciel reste encore un petit peu nuageux, avec pas mal de brouillards matinaux, soyez prudents. Et puis, ces nuages vont très vite se dissiper pour laisser place à de très belles éclaircies. C'est sur le Languedoc-Roussillon, sur les Cévennes, le sud du Massif central, que le temps reste encore humide demain avec des averses et puis toujours le vent d'autant qui souffle jusqu'à 80 km/h. D'ailleurs, sur les Pyrénées et la pointe bretonne, nous aurons du vent, le vent qui se lève, hein, c'est le vent du sud qui va souffler jusqu'à 70 km/h. Les températures, comptez 2 à 12 degrés demain matin, 2 à Strasbourg, 4 à Besançon et à Pau, 6 degrés à Lyon, 9 à Lille, 10 à Nice, 11 à Paris demain matin et 12 pour Marseille. Et puis au meilleur de la journée, toujours de la douceur avec 13 à 20 degrés, 13 à Lorient, 18 à Paris et 20 pour Montluçon.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Et je vous invite à rester avec nous parce que dans un instant, c'est toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Avec cette polémique, les salaires seront-ils toujours payés en priorité dans les entreprises en dépôt de bilan? Un projet de loi jette le doute. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Christopher Bass, président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine dans le désordre ce soir. Les marchés souffrent de nouveau de la hausse des rendements obligatoires.
Oui, les rendements obligataires qui sont surveillés de très près. Les marchés anticipent une hausse de l'inflation et craignent une politique moins accommodante de la part des banques centrales. Alors le Dow Jones résiste, toute petite hausse de 0,09%, 31 521 points. Mais le Nasdaq, lui, plonge de 2,46%, 13 533 points. Et il plonge sous le poids des géants de la tech. Apple lâche 3%, moins 2% pour Amazon, moins 2,6% pour Microsoft. Et puis ça baisse aussi pour un autre poids lourd, l'avionneur Boeing. Boeing qui recommande aux compagnies aériennes de suspendre l'utilisation des appareils 777 équipés du moteur impliqué dans un incident spectaculaire ce week-end aux États-Unis. Et le titre perd 2%. Forte hausse du pétrole, le WTI bondit de 3,7%. On est à 60 $21,48 le baril à New York. L'euro gagne 0,3%, $1,21,58.
À Paris, le CAC 40 s'inquiète lui aussi de la hausse des rendements et ça pèse sur le marché qui termine à l'équilibre.
Oui, le CAC 40 est quasi stable, -0,11%, 5767 points, avec tout de même un repli marqué pour les valeurs technologiques comme à New York. ST Microelectronics perd plus de 2%, -4% pour Dassault Systèmes. L'automobile aussi a pesé. L'équipementier Faurecia a publié des résultats financiers dans le rouge, plombé évidemment par la crise sanitaire. Le titre Faurecia perd 4,5%, -5% pour son concurrent Valeo. Repli aussi pour les constructeurs. Renault perd 3% et Stellantis -1,3%.
La plupart des secteurs sont en baisse, à l'exception de celui des transports et des loisirs.
Oui, un secteur qui a beaucoup souffert en bourse depuis un an et qui profite un petit peu de la vaccination. Ça monte ce soir pour Air France KLM, +1,3%. Le groupe hôtelier Accor bondit de 5,7%. Et puis, les déboires de Boeing aux États-Unis profitent à son concurrent Airbus. L'avionneur gagne 4,4%. Les marchés européens ont terminé en baisse, repli de 0,2% pour Londres et de 0,3% pour Francfort. Milan et Madrid perdent 0,5%. Amsterdam, -1%. Et à Paris, le CAC 40 est stable, 5767 points.
Merci beaucoup, Claire Lemaître de boursier.com et à demain, Claire. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Christophe Basse.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est qu'il y a une très grosse inquiétude. Il y a un projet de loi du côté du ministère de la Justice qui est en préparation pour réformer, on va le faire très simplement, la façon dont l'argent est distribué quand une entreprise ferme. En tout cas, ce qui reste et quelles sont les priorités. Jusque-là, la priorité des priorités, c'était de payer les salaires, l'intéressement des collaborateurs qui se retrouvaient sans emploi au moment de la fermeture de l'entreprise. Ce qui inquiète dans ce projet de loi, dans cette réforme de ce projet de loi, c'est qu'on pourrait changer l'ordre des priorités et que vous, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, c'est-à-dire ceux qui viennent gérer l'entreprise quand elle est en grande difficulté à la place de la direction, eh bien que ce soit vous les premiers à en bénéficier. Déjà pour qu'on comprenne bien, en quoi ce serait logique que ce soit vous les premiers à en bénéficier ?
Alors Emmanuel Duteil, je veux d'abord rassurer les salariés. Nous sommes administrateurs et mandataires judiciaires, le garant du paiement des salaires. C'est-à-dire que si un projet de loi venait à modifier l'ordre de répartition et créer un risque pour les salariés, la profession serait montée au créneau. Le paiement des salaires, ce n'est pas négociable, c'est le cœur de notre système.
Alors malgré tout, s'il y a une polémique, c'est parce que les partenaires sociaux, et notamment le MEDEF, hein, qui gère ce que l'on appelle l'AGS, qui est l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, hein, donc ceux qui paient les salaires quand il n'y a plus personne pour les payer, qui est incarné aujourd'hui par le MEDEF, dit... C'est comme ça que ça va se passer et nous, on ne veut pas. Donc j'ai envie de dire, si c'est même le MEDEF, c'est qu'il y a peut-être quand même un petit peu anguille sous roche.
Écoutez, on est tous confrontés à une crise économique qui va s'accélérer pour les procédures collectives, c'est-à-dire des entreprises qui rencontrent des difficultés dans les prochains mois. Bon. Et donc, l'AGS, qui est gérée par le MEDEF, est confrontée également à un risque élevé d'une augmentation patronale qui apparaît probablement inéluctable. Vous savez, les cotisations patronales ont évolué dans le temps en fonction des crises. Bon.
Ce que vous dites là, pour qu'on traduise, c'est que s'ils veulent continuer à payer tous les salaires à 100% comme on le fait aujourd'hui, il va falloir que les entreprises aient une cotisation supplémentaire pour assurer la trésorerie de l'AGS. On traduit.
C'est un risque. Non, c'est un risque. C'est un risque qu'ils doivent prendre. En revanche, il est hors de question que sur ce risque qui peut être pris par le MEDEF, les boucs émissaires se retrouvent les administrateurs et mandataires judiciaires que vous avez cités, qui, et ce serait nouveau, se payent en premier au détriment des salariés. Et moi, je vais vous dire, le projet d'ordonnance du gouvernement ne change en rien à ce qui existe depuis 50 ans, depuis la création de l'AGS en 1973.
Malgré tout, il change l'ordre des priorités. Aujourd'hui, ce qui est inscrit dans le marbre, c'est que ce soit les salaires qui soient payés en premier, et ensuite, s'il reste de l'argent, les autres, dont vous.
Absolument pas. Les salariés seront toujours payés en premier.
Toujours payés et toujours payés à 100%.
Les salariés seront toujours payés à 100% et toujours payés en premier, notamment par l'avance de l'AGS, qui est un assureur. En revanche, le remboursement de l'assureur fait l'objet d'un ordre de créance, d'un ordre de répartition qui est fixé dans les textes depuis des années et que le projet de gouvernement vient simplement clarifier et non modifier. Et donc les administrateurs et mandataires judiciaires, les auxiliaires de justice, depuis toujours, qui reçoivent ce mandat de justice et qui ne sont pas des créanciers de la procédure, se payent sur les fonds disponibles, jamais au détriment des salariés, mais avant le remboursement de l'assureur. Et ça a toujours été ainsi, sinon il ne peut pas y avoir de procédure collective.
Malgré tout, ça met quand même un peu plus en doute le paiement des salaires aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'il va falloir que le patronat qui gère l'AGS, mais c'est paritaire, hein, les syndicats sont pour une fois main dans la main avec le patronat sur cette question, il va quand même falloir qu'ils sécurisent leurs finances pour pouvoir vous payer.
Non, ce n'est pas pour nous payer, nous.
Non, mais je caricature, mais malgré tout, c'est quand même ça.
Non, c'est pour payer les salariés. Et les salariés, écoutez, depuis l'existence du système, l'AGS a passé toutes les crises, et notamment la crise des subprimes de 2008, où les effets de cette crise montrent des niveaux de procédure et de prise en charge des salariés trois fois supérieurs à aujourd'hui.
Oui, sauf que tout le monde sait que demain, ça risque d'être pire.
On peut vous démontrer que dans le passé, ça s'est passé, et le régime n'a pas bougé. Le système de répartition était exactement le même, et je vais même vous dire plus. La rémunération des auxiliaires de justice n'a cessé de diminuer depuis ces 10 dernières années.
Justement, si on en vient à la situation des entreprises, pour le moment, ça tient, mais on sait pourquoi. Parce qu'il y a ce que l'on appelle les amortisseurs sociaux, c'est-à-dire le chômage partiel pour les salariés ou les prêts garantis pour les entreprises. Une fois que ça va être levé, tout le monde s'attend à une catastrophe, à un tsunami, certains disent. La première question, c'est est-ce que là, vous commencez à voir les prémices de ce tsunami? Et la deuxième, est-ce que ce tsunami va être historique?
Alors, pas encore. Comme vous l'avez dit, les mesures gouvernementales sont encore très présentes. Les reports de charges sociales et fiscales, les PGE, le chômage partiel. Bien. Évidemment, il y aura un terme à l'ensemble de ces aides et les entreprises vont être confrontées à des remboursements. Je crois qu'aujourd'hui, les PGE vont permettre à un certain nombre d'entre elles de pouvoir faire face à ces remboursements, mais d'autres rencontreront des difficultés importantes de trésorerie, et je pense notamment à des secteurs très particuliers, comme l'événementiel, comme les cafés, hôtels, restaurants. Bon. Moi, le message que je veux donner, Emmanuel Dutheil, c'est que si jamais les choses deviennent plus difficiles pour les entreprises, la France est dotée d'une boîte à outils extrêmement performante de prévention et de traitement.
Mais elle résiste à une crise historique ?
Elle résistera à une crise historique. Et je ne crois pas à un pic de faillite, pas du tout. Et ça va être plus difficile. Il n'y a jamais eu aussi peu de procédures en 2020. Il y aura certainement un rattrapage en 2021. L'accélération se fera quand la reprise économique redémarrera. Et là, nous serons aux côtés des entreprises pour dérouler cette boîte à outils, pour justement éviter ce pic auquel vraiment je ne crois pas. Ce sera plus difficile, mais on saura faire face grâce à notre boîte à outils.
Eh bien, ce sera l'occasion de vous rappeler un grand merci, Christophe Bas. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Nous, on se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous nous parlerez vélo avec votre invité Marc Simoncini, à l'origine du vélo électrique Angèle. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec une une optimiste pour une fois, celle des Échos. L'efficacité démontrée des vaccins, titre le journal économique. Et en effet, une première étude israélienne prouve l'effet du vaccin Pfizer pour bloquer la transmission du Covid à l'échelle d'une population. Par ailleurs, les hospitalisations baissent au Royaume-Uni, là aussi grâce à la vaccination selon des chercheurs écossais. Bref, les vaccins sont bel et bien notre salut pour sortir de cette interminable pandémie. Algérie, Irak, One More Time, titre malicieusement Libération qui mélange deux actus en une. Le renouveau du Irak, le mouvement de contestation algérien et l'annonce de la séparation du groupe Daft Punk, One More Time étant l'un de leurs tubes les plus connus. Mais c'est bel et bien la situation en Algérie que Libé analyse dans ses premières pages. Le Irak renaît, le pouvoir bégaye. Après une pause de près d'un an en raison de l'épidémie, les Algériens ont renoué aujourd'hui avec la contestation dans les grandes villes du pays. Il y a trois ans, leur mobilisation avait conduit au départ fracassant du président Bouteflika, sauf qu'entre-temps, rien ou presque n'a changé. La répression continue à s'abattre sur ceux qui osent s'opposer au pouvoir militaire et les richesses du pays restent squattées par une minorité, analyse Alexandra Schwartbrod. Voilà pourquoi la manifestation d'aujourd'hui et celle qui devrait suivre dans les jours à venir sonne comme un avertissement au président Tebboune. Bonsoir
c'était
Olivier Delacroix.
Du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Oui, quand même.
Bah faut oui, pas bonsoir, oublier, faut pas oublier.
Julie. Faut pas oublier la 5G. Comment allez-vous, Julien ?
Je vais très bien, merci. Et vous ?
Eh bah, écoutez, parfait. Week-end à travailler, ceci dit. Mais bon, à Rennes. Et j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, mon cher Julien.
Eh bah écoutez, c'est merci, merci beaucoup.
24 ou 25 ans, ça vous fait ?
Plutôt 33, 39-21, bon. Pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant, et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et on se retrouve pour le flash d'ici une petite demi-heure.
À tout de suite.